nouvelle édition de l'économie en question. Nous restons nous aussi en Asie et nous parlons aujourd'hui de la Chine. Acteur essentiel de l'économie mondiale, 30 ans d'une croissance impressionnante, d'abord appuyée sur ses exportations, sur une manœuvre bon marché, le fameux atelier du monde, puis sur de grandes ambitions, investissements, infrastructures notamment, et puis une croissance qui, après avoir frôlé la surchauffe, est aujourd'hui nettement ralentie. Alors s'agit-il d'un atterrissage brutal ou d'un freinage contrôlé par les autorités? Les analyses peuvent différer à ce sujet. Mais une chose est sûre, tous les autres pays, émergents en tête, vont suivre de près les prochaines étapes et avec intérêt. D'autant plus que, après des années de tensions et de crises qui ont vu la croissance mondiale chuter de 5,4%, c'était en 2010, à 3,1% cette année 2016, l'activité semble repartir. Ce sont en tout cas les tout derniers chiffres du Fonds monétaire international. Alors quel rôle la Chine, en pleine transition économique, mais aussi transition démographique et sociale, entend-elle jouer dans cette fragile reprise? Avec quels objectifs? Croissance, échange, population? Peut-on parler d'une nouvelle Chine? C'est notre thème ce matin. Et nous sommes heureux de recevoir Françoise Lemoine, conseillère au CPI, Centre d'études prospectives, information internationale, chercheuse associée également au Centre d'études sur la Chine contemporaine, c'est l'école des hautes études, Jacques Gravreau, qui est le président d'honneur de l'Institut HSC Eurasia, qui vient de faire paraître la Chine conquérante. Enquête sur une étrange superpuissance est aux éditions Erol, et David Bavray, économiste investisseur, c'est ainsi qu'il se présente dans la quatrième couverture de son livre Paris-Pékin Express, dont nous allons rappeler, donner tout de suite le projet, assez original et amusant, il faut bien le dire. Et la chronique de Catherine André, journaliste à Alternative Économique, c'est pour la toute fin de l'émission, avec vos chiffres, je vous ai demandé à chacun, de venir avec un chiffre. C'est bien l'économie en question. Nous sommes ensemble jusqu'à 12h30. Bienvenue à tous. Conquérante, c'est l'opinion de Jacques Gravreau. La Chine puissante, c'est celle de David Bavray. Je pense que l'un et l'autre vont nous dire un peu plus dans le détail comment ils ont vu évoluer ce grand pays. Partons d'abord de ce ralentissement de l'économie mondiale et donc de la Chine. C'est un peu la poule et l'œuf. Hein, la Chine, le ralentissement mondial a peut-être entraîné des difficultés en Chine. À l'inverse, ce que connaît la Chine retentit immédiatement sur l'économie mondiale. Quel est votre pronostic ou quel est votre diagnostic plutôt? Partons de ce qui est en train de se passer actuellement avec cette reprise, semble-t-il, qui se confirme, qui veut commencer, Monsieur Gravreau, Jacques Gravreau.
Oui.
Reprise planétaire, j'entends. Hein.
La Chine, pendant 20 ans, a eu une croissance de 10%, ce qui veut dire une multiplication par deux tous les 6 ans et demi de l'économie chinoise. Évidemment, les Occidentaux ont parlé de surchauffe, et c'est d'ailleurs le mot que vous avez employé.
Ouais.
Un pays qui part de 180 dollars de PIB par habitant en 1980, c'est pas de la surchauffe, c'est simplement du rattrapage des économies développées. Alors maintenant, depuis 3 ans, on s'habitue à un ralentissement de ces 10%. On est arrivé à 6,7, enfin pas loin de 7 l'année dernière. Là, au début de l'année, on est un poil de plus que ça, 6,9. C'est une très belle performance. Alors, c'est une très belle performance avec évidemment beaucoup de bugs à l'intérieur de la machine, parce que tout ça est très contradictoire, très déséquilibré. Mais globalement, si un certain nombre d'autres pays avaient ce taux de croissance, sans même parler de l'Europe, on s'en contenterait.
Bien sûr, bien au-dessus de 7% et pendant 25 ans, c'est ça qu'il fallait préciser. C'était pas forcément une critique, c'était un constat que je faisais sur cette fameuse croissance à deux chiffres qui a tendance à redescendre. David Bavray.
Ben, ce ralentissement, comme d'habitude dans la vie, il y a une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que le rééquilibrage de la croissance par la consommation intérieure ne marche pas, contrairement à la propagande gouvernementale, dans un pays...
C'est le projet de relancer la consommation intérieure.
Exactement, mais ça ne marche pas parce que, vous voyez bien que dans un pays qui consomme en volume, dont les volumes de consommation de bière sont en baisse d'année en année, on ne va pas croire que la consommation fait plus 10. Donc on sait que les chiffres sont faux et on comprend pourquoi. C'est tout simplement que la consommation, elle est venue historiquement de la hausse de l'immobilier qui maintenant touche à sa fin. Il y a une inégalité de répartition de richesse qui fait que vous ne pouvez pas avoir un marché mass market pour 400-500 millions de personnes, il est seulement pour 100 à 150 millions de personnes. Donc tout ça, c'est la mauvaise nouvelle. La Chine ne va pas croître de la même façon. La bonne nouvelle, c'est que cette croissance va s'opérer par un autre système qui est la révolution schumpeterienne. C'est la révolution digitale qui fait que aujourd'hui, il y a une nouvelle Chine. La raison pour laquelle on est seulement à 5-6% de croissance optique, c'est qu'il y a une nouvelle Chine qui croît à plus de 20-30%, et puis il y a une ancienne Chine qu'on est en train de restructurer. Donc en termes très simples, ce sont 13 millions d'emplois nouveaux créés par la nouvelle Chine et 12 millions d'emplois détruits par l'ancienne Chine. Donc en fait, l'empereur de Chine aujourd'hui, c'est Schumpeter.
Enfin, on va y revenir et notamment insister sur ce domaine, l'innovation, dans laquelle on peut ranger aussi bien l'environnement, les politiques environnementales, qu'évidemment tout le rapport à la troisième, à l'économie, Internet et le reste. Françoise Lemoine.
Oui, je voulais juste apporter une nuance à ce qui vient d'être dit. C'est vrai que la Chine a connu un taux de croissance pendant 30 ans de 10% par an, partant de très bas, comme le soulignait Jacques Gravreau. Ce qu'il faut bien voir, c'est que je pense que ce ralentissement qui apparaît depuis quelques années, c'est un ralentissement structurel et, je dirais, naturel. Parce que la Chine est maintenant pratiquement la première économie du monde, selon certains calculs, elle a rattrapé les États-Unis. Et 6% de croissance en 2016, ou 6, 7, en volume et en masse, c'est plus que 12% de croissance en 2005. Donc, le fait qu'il y ait un ralentissement du taux de croissance est complètement lié à la masse que représente maintenant l'économie chinoise. Et on ne peut pas imaginer une économie qui est pratiquement maintenant de la taille des États-Unis continuer à 10%. Donc, c'est un ralentissement, je dirais, structurel. Je ne parlerai pas d'atterrissage en douceur, mais d'un ralentissement naturel de la croissance économique.
Mais peut-être
d'autant
aussi...
plus. Je voudrais juste rajouter que la Chine n'a plus besoin, autant que par le passé, d'avoir une forte croissance pour créer des emplois, parce que, comme vous le savez, la population en âge de travailler en Chine, elle diminue maintenant. Donc un taux de croissance de 10% n'est ni souhaitable ni nécessaire pour la création d'emplois, ce qui était le cas dans les trois premières décennies de la réforme.
Oui, et on parle même d'une croissance qui serait voulue, maîtrisée par le pouvoir, vous le dites aussi. Comme le dit David Baffray, il n'est pas toujours facile de connaître les données, les chiffres précis, il reste quand même extrêmement flou et vous êtes là tous sur des hypothèses et sur la connaissance que vous avez vous-même de ce pays. Mais est-ce que vraiment on pense que le président chinois actuellement l'a souhaité? On dit par exemple qu'il a affiché très récemment en ouverture de l'Assemblée nationale, c'était au mois de mars, l'Assemblée nationale du peuple, un objectif d'environ 6,5 et on lit là-dedans que c'est un choix, c'est-à-dire cet environ voudrait dire que les autorités ne cherchent pas à atteindre ce chiffre par tous les moyens. Vous le confirmez, Jacques Gravreau et David Baffray? Je vous vois faire la moue, Jacques Gravreau.
Ce qui compte, c'est l'harmonie sociale. Donc, ce que le gouvernement gère, c'est la création nette d'emplois. C'est-à-dire que ces 13 millions d'emplois créés permettent la restructuration jusqu'à 12 millions d'emplois. C'est ce qui s'est passé l'an dernier. Donc, en fait, ce que le gouvernement gère, c'est pas tant un taux de... C'est là où je crois qu'occidentaux ont commis une erreur. Ce qu'il ne faut pas regarder, c'est ce taux de croissance, qui n'est pas vraiment ce que le gouvernement gère, c'est l'emploi. Et donc, ce qui est important, c'est la vitesse à laquelle on peut restructurer les industries d'hier. Et là, le côté positif, c'est ce qu'on appelle le PPI, donc l'indice des prix à la production, qui, après 5 années de déflation, est redevenu inflationniste au troisième trimestre de l'an dernier. Et ce qui prouve qu'il y a, même si ce n'est pas à la vitesse qu'on souhaiterait, il y a les premiers signes d'une réduction des capacités excédentaires en Chine. Et ça, c'est un signe très positif.
Peut-être un mot sur la monnaie, le yuan, dont on a très souvent dit aussi que la concurrence était élevée avec le dollar, si l'on oppose États-Unis, Chine. Et le désordre financier aussi, quand même, qui va avec.
Oui, enfin, actuellement, il y a tout un débat sur la capacité de la Chine à internationaliser le yuan. Le yuan a tendance à se déprécier ces toutes dernières années. Et je pense que on peut accuser les autorités chinoises de le faire, de le manipuler afin de maintenir la compétitivité à l'exportation.
On les en a accusés d'ailleurs.
Oui, mais sur le long terme, il y a quand même, sur le long terme, et depuis la dévaluation de 2005, il y a quand même une tendance lourde à une appréciation du yuan qui fait que la surévaluation n'est plus aussi nette, si tant est qu'elle existe encore, que la sous-évaluation n'est plus aussi nette qu'elle pouvait l'être il y a une dizaine d'années.
Oui, car on leur a reproché effectivement, Jacques Ravreau.
Je voudrais revenir sur le maintien de la croissance relativement élevée. Il faut savoir sur quel bouton on appuie pour maintenir cette croissance élevée. David Mavrez l'a dit, on parle de consommation comme un mantra depuis des années, mais ça marche pas très bien. En revanche, c'est les investissements massifs qui sont consentis par le gouvernement. Rien n'est trop beau pour faire des infrastructures. Chaque année, on balance 3%, 4%, 5% du PIB en investissements massifs. Et puis, on règle également le problème de l'immobilier. La mère de toutes les batailles en Chine, c'est l'immobilier, puisque l'immobilier représente, je sais pas combien, 15% de l'économie chinoise. Donc, dès que l'immobilier donne des signes de faiblesse, allez hop, on remet au pot pour des montants, mais dont on n'a pas idée. Et si on n'a pas l'argent cash pour remettre au pot, on prie les banques de le faire. Comme c'est des banques d'État, c'est facile. Et donc, on se retrouve dans une spirale où on aide finalement des secteurs d'infrastructures dont on a probablement besoin, mais on aide dans le même temps des entreprises d'État qui sont des monstres pour lesquels, là, on peut se poser de graves questions. Et en même temps, on nourrit une dette chinoise qui s'accroît
colossale,
d'année en année.
Public et privé.
Jusqu'à ce qui est une crise financière qui explose un jour.
Rappelez-moi les chiffres de plus de 270...
260%
du PIB. 260% dans du produit intérieur brut, c'est pas mal. On peut aller encore plus haut.
Ah bien sûr, oui, ça continue à monter. Bah, oui.
C'est-à-dire que tant que la dette augmente plus rapidement que le PIB, ça pose un problème, effectivement, à terme de capacité de remboursement des emprunteurs.
Et avec des phénomènes souterrains qui sont gravissimes, c'est-à-dire qu'on estime qu'au premier trimestre de cette année, il y a 600 milliards de dollars qui ont été prêtés dans le système chinois par les banques officielles, mais il y a 1000 milliards de dollars qui ont été prêtés par ce qu'on appelle le shadow banking, c'est-à-dire par un système complètement bricolé, opaque, sans garantie, etc. Alors, s'il y a un jour une crise majeure, c'est probablement de là que ça viendra.
Oui, j'allais souligner une bonne partie de ces actifs financiers, on les voit pas quasiment, ils apparaissent pas tout à fait dans les bilans des banques.
Non, il y a un proverbe de business chinois qui existe depuis 800 ans qui est dit dans l'eau claire, pas de poisson. Ça veut dire que si c'est trop clair, trop net et que les statistiques sont claires, c'est mauvais signe.
Ça, il n'y a pas de danger qu'elle soit trop claire.
Pas de danger qu'elle soit trop claire.
On n'en est pas encore là. Et David Bavre, je disais que votre livre était original car je donne son sous-titre, Paris-Pékin Express, La nouvelle Chine racontée au futur président. Président, naturellement, vous parlez au futur président de la France. Compte tenu de la date à laquelle nous sommes, vous n'allez pas nous en dire plus. Mais je retiens quand même votre enthousiasme et votre conseil, et peut-être que vous le donnez à d'autres présidents européens, à se rendre un peu plus souvent en Chine et à croire davantage dans les possibilités de partenariat chinois.
Oui,
C'est à peu près le sens de votre ouvrage. Très enthousiaste sur cette partie innovante.
Il y a une triple révolution en Chine, politique, économique, sociétale, et je crois qu'on a... Ça fait 30 ans que la Chine vient chez nous pour prendre le meilleur de ce qu'il y a chez nous. Je vous demande pas de devenir chinois, je vous rassure, mais je dis juste que si on y va, on a certainement beaucoup de choses à apprendre, et notamment la révolution digitale qui se développe à un rythme qui est deux fois supérieur à ce qui se passe en Occident. Donc ça vous donne l'e-commerce, 50% de l'e-commerce dans le monde est en Chine. Demain, aujourd'hui, c'est la fintech. Demain, ça va être les services de géolocalisation. Après-demain, ça va être l'internet des objets. Là où j'habite, à Hong Kong, et à Shenzhen, les dépenses de recherche et développement, c'est 4% du PNB. En Europe, c'est 2%. Donc, c'est ça, la nouvelle Chine.
Car vous vivez en Chine, je le précise. J'aimerais qu'on insiste sur la partie démographie en Chine qui est extrêmement importante. D'ailleurs, vous venez de le dire en parlant de consommation intérieure. La Chine a pris conscience qu'il lui fallait maintenant pousser un petit peu cette consommation intérieure pour des raisons évidentes et aussi de pression sociale. Car quand même, on a vécu des mouvements, des tensions sociales assez fortes dont on ne parle peut-être pas tant que ça en Occident.
On vit tout le temps.
Jacques Ravreau.
Tous les jours, il y a 80 000 manifestations par an, ce qui veut dire divisé par 365 jours, ça vous en fait 500 par jour.
Le territoire est grand, mais tout de même.
Oui, qui viennent soit de paysans qui ont été dépossédés de leurs terres pour faire des projets X ou Y, soit de toute autre exaction du parti. Donc on est dans une société bouillonnante. Hein, Claudel, il y a un certain temps, il y a 100 ans, appelait cette société une société à l'état de friture perpétuelle. Alors, tant qu'on a de la croissance, bah, c'est l'opium du peuple. Ça calme les gens et puis les perspectives d'avenir sont positives. Mais en même temps, cet état de friture perpétuelle, elle est prête à bouillonner à tout moment.
Oui, deux raisons importantes à cela, il doit y en avoir beaucoup d'autres, mais l'environnement, la pollution très forte, hein, les courants par exemple, l'eau extrêmement dégradée, on peut y revenir si vous le souhaitez, parce que vous l'avez déjà dit, David Bavrès, c'est un objectif fort du gouvernement chinois, et la population, je le disais, avec un enjeu très fort, je ne sais pas de qui est cette formule, je l'ai retrouvée à plusieurs reprises, y compris dans vos ouvrages, la Chine risque d'être vieille avant d'être riche. Jacques Ravreux, vous reprenez hein, cette phrase aussi. Je l'ai lu aussi dans des travaux de la démographe Isabelle Attané, qui est assez préoccupée, disons, par la fin de la politique de l'enfant unique. Politique, on se rappelle, qui avait été engagée il y a déjà, 25 ou 30 ans, hein, et qui s'est arrêtée fin 2013, mais avec, pour l'instant, n'a pas les effets escomptés. On peut rester un instant sur cet aspect population, y compris la population empêchée de se rendre dans les zones où il y a le travail.
Il ne faut pas concevoir ce le vieillissement en Chine va être deux fois supérieur à celui qu'on a en Europe. Mais il ne faut pas le regarder avec des yeux d'occidentaux. Il n'y a pas de retraite en Chine et il n'y en aura jamais. Donc en fait, l'impact économique va être beaucoup moins fort, surtout dans un pays dont il faut quand même se rappeler que la moitié de la population vit encore dans les campagnes, dans ce que nous on qualifierait de quasi moyenâgeux. Donc, ce qui va être important.
Mais aspire à changer, justement.
Absolument. Et c'est pour ça que ce peuple n'est pas du tout soumis contre quoi. Jacques Gravot rappelait qu'il y a des manifestations tous les jours. Ce qui va conduire le développement chinois dans le futur, c'est la productivité. Et c'est pour ça qu'ils ont besoin de deux choses. Ils ont besoin de la technologie et des services. Et ça, nous les avons. C'est pour ça qu'il y a moyen de construire ce que j'appelle une nouvelle route de la soie digitale, en disant, nous, Européens et Chinois, nous pouvons nous associer contre l'Amérique de Trump pour gagner la seconde manche de la révolution digitale.
Oui, sur la population, vous dites plus que ça, David Bavrès. Vous dites, au fond, ce qui est grave, ce n'est pas d'être vieux, parce qu'on peut travailler très longtemps quand on est vieux, à part les tout derniers mois de la vie.
Donc, les Chinois,
vous y allez assez frontalement.
Les Chinois conçoivent la vieillesse comme les 3 à 6 derniers mois de votre existence. Avant, vous travaillez. Donc, il n'y a pas de problème de retraite.
Ce qu'il faut bien dire, c'est qu'actuellement, l'âge de la retraite est très bas en Chine. Il est de l'ordre de 50 ans pour les femmes, 55 ans pour les hommes. Donc, effectivement, il suffit pour les autorités chinoises, s'il y a effectivement un manque de main-d'œuvre, d'allonger un petit peu l'âge, enfin de prolonger un petit peu l'âge de la retraite pour se créer une main-d'œuvre supplémentaire. Mais je crois que si on revient sur il faut revenir un petit peu peut-être sur la qualité de la croissance, parce que en fait, ça fait déjà au moins une décennie que les autorités chinoises essaient de passer d'une croissance purement quantitative avec des chiffres toujours plus élevés à une croissance qui soit plus qualitative, et j'ai l'impression que ce rééquilibrage est quand même en cours. Quand vous le disiez, il y a une croissance qui est maintenant plus forte dans les services que dans l'industrie, ce qui va accompagner une politique qui soit un peu plus soucieuse d'environnement, parce que l'industrie est quand même très, très polluante. Il y a aussi un souci de transferts sociaux. Il y a quand même, parallèlement avec l'urbanisation, une volonté de développer les prestations sociales, les dépenses de santé.
L'éducation, hein, qui est extrêmement déséquilibrée,
parce qu'elle est très chère et elle est sous-développée elle est chère dans les villes et sous-développée dans les campagnes. Même s'il n'est pas effectivement très net que la consommation soit en train de prendre le relais de l'investissement, on peut pas non plus exclure que la consommation des ménages soit sous-estimée en Chine dans les statistiques officielles et qu'en fait elle progresse plus qu'on a l'impression de le voir à regarder les chiffres. Enfin, moi j'ai l'impression que au-delà de ce ralentissement, il y a aussi une restructuration de la croissance qui va plutôt dans le bon sens, même si il persiste beaucoup de déséquilibres et notamment des problèmes d'endettement interne qui sont assez préoccupants.
Ouais. Sur la
C'est dans le secteur de la pollution, de l'environnement, que la Chine va le plus nous surprendre dans les 10 prochaines années.
Elle commence à le faire, d'ailleurs.
On a oublié qu'en 1952, à Londres, tout le monde portait des masques. Oui. On a oublié qu'en 1970, à Los Angeles, on disait « Vendez votre immobilier, plus personne ne pourra vivre à Los Angeles ». Donc, les problèmes que la Chine a, l'Occident les a eus, simplement, elle veut les résoudre en une dizaine d'années, quand, par exemple, l'Angleterre a mis 30 ans à les résoudre. Donc, cette nouvelle Chine, en fait, progresse beaucoup, beaucoup plus rapidement que l'Occident au même stade.
parce que l'urgence est là, hein, on le répète, pollution des villes, pression, qualité de l'air, santé. Mais la Chine qui a d'ailleurs atteint son pic d'émissions, dit-on déjà, en 2010, en train de redescendre avec le charbon. Mais enfin,
à l'heure où nous parlons, il y a la plus grande tempête de sable jamais vue à Pékin et tous les aéroports sont fermés. Bon, parce qu'on a coupé tout le bois du côté du désert de Gobi depuis longtemps.
Et oui,
juste un chiffre, le jour de Noël dernier, il y avait à Paris 35 nanogrammes par mètre cube de particules fines et on a quasiment déclenché le plan Orsec en coupant la circulation, etc. Le même jour à Pékin, il y avait 500 nanogrammes par mètre cube. Donc, les Chinois prennent vigoureusement à bras-le-corps le problème, mais il y a encore du boulot.
Oui, avec des investissements, on le sait déjà, hein, dans le solaire, dans l'électrique, la voiture électrique notamment. Je reviens encore à la question de société, là, que je trouve vraiment très très intéressante. Et si vous parliez, Françoise Lemoine, accès à l'école, soins de santé, activités périscolaires, tout ça, c'est très cher. Et ça serait toujours, selon la démographe Isabelle Attané, dans les travaux, je vous les recommande, sont fort intéressants, elle est à l'INED, ce serait de l'ordre de 30 à 40% du budget qu'une famille consacre à son enfant. Donc, une des raisons pour lesquelles, peut-être, elle ne souhaite pas tant que ça avoir davantage d'enfants.
Oui.
Vous entendez cela ?
Oui. Et on sait qu'une des raisons pour lesquelles le taux d'épargne des ménages en Chine est très élevé, est très largement une épargne de précaution,
qui est liée
au fait de pouvoir faire face à des accidents de santé, qui sont souvent mal pris en charge par l'État, et aussi pour pouvoir faire face à l'éducation des enfants à long terme. Donc la volonté des autorités chinoises de relancer la croissance sa réalisation est conditionnée par le fait qu'on développe les transferts sociaux pour libérer du pouvoir d'achat en réduisant un taux d'épargne qui est extrêmement élevé jusqu'à présent.
Oui, et encore faudrait-il aussi que l'on laisse les Chinois circuler, cette fameuse question des migrations à l'intérieur même du territoire, conditions de vie, le fameux permis, comment l'appelle-t-on, le
Hukou.
Non, Gravreux, c'est pas un problème important, cela ?
C'est pas un problème. Il y a 200 millions de Chinois qui sont sur les routes. Alors, ils sont pas tous sur les routes même jour à la même heure, hein. Ça ferait des photographies un peu étonnantes. Mais il y a 200 millions de Chinois qui sont sur les routes. C'est eux qui construisent les villes, c'est eux qui servent dans les restaurants des villes, etc., etc.
Le hukou, c'est le passeport intérieur.
Le hukou, c'est un document de résidence qui montre où vous résidez. Alors, le problème, c'est que si vous êtes du fond de la Chine et que vous arrivez à Pékin, vous pouvez travailler tant que vous voulez, vous pouvez épargner, vous pouvez, etc., mais vous pouvez pas avoir accès aux services publics, à l'hôpital, à l'école pour vos enfants, même à ouvrir un compte en banque. Bon. Et si vous recevez une brique sur la tête, on vous admet pas à l'hôpital et on vous dit, retournez dans votre village pour vous faire soigner.
C'est sacrément dissuasif, quand même.
Ceci étant, on peut parfaitement se promener d'un bout à l'autre de la Chine. La preuve, c'est qu'il y a 200 millions de personnes qui travaillent dans les usines, dans les villes, etc.
Et avec ces risques-là, donc, David Bavray.
Pour moi, c'est un exemple splendide de ce que l'Europe a à apprendre de la Chine. Le plus gros problème européen des 10 à 15 prochaines années, ce sont 250 millions de personnes qui, en Afrique subsaharienne et au Moyen-Orient, viennent sur le marché du travail sans formation, sans travail, et qui vont devenir des migrants. La Chine montre au cours des 15 dernières années comment gérer 200 à 250 millions de migrants, avec du positif et du négatif.
Les circonstances sont très négatives quand même. Les conditions sont terribles, non ? On vient de les décrire.
Bien sûr, mais ce sont des gens qui sont sortis de l'ultime pauvreté.
C'est un grand débat.
Donc vous raisonnez typiquement en occidental. Mais quand quelqu'un passe de 50 à 500 dollars, pour moi, c'est positif. Et vous savez quoi ? Pour les Chinois, c'est vécu également de manière positive.
Françoise Lemoine, dernier mot.
Ce problème de Roko, je crois que les autorités centrales l'ont délégué au niveau de chaque province ou de chaque grande ville. C'est-à-dire maintenant, chaque province ou les grandes villes chinoises ont la capacité de décider dans quelle mesure elles vont intégrer dans leur système de protection sociale, par exemple, tel ou tel type de migrants. Mais la politique générale est quand même de plus en plus d'intégrer ces migrants aux cités dans lesquelles ils résident, puisque l'objectif est quand même d'urbaniser la Chine au cours des 10 prochaines années et 20 prochaines années.
Merci beaucoup à tous les trois pour vos analyses. On passe à vos chiffres. Et on commence avec notre partenaire d'Alternative Économique. Quel est votre chiffre, Catherine André ?
Dominique, bonjour. Donc c'est 60 milliards d'euros,
c'est le solde de tout compte que l'Union européenne pourrait demander à Londres dans le cadre des négociations sur les contributions budgétaires qui restent dues à l'Union pour le Royaume-Uni. Et certains disent récemment que la facture du Brexit pourrait même s'alourdir jusqu'à 100 milliards d'euros. La marche du pays hors de l'Union a pris ces 15 derniers jours un nouveau tournant, pour ne pas dire un petit coup d'accélérateur. La première ministre britannique Theresa May a annoncé le 18 avril dernier des élections législatives anticipées pour le 8 juin prochain et qui se seraient tenues sinon en 2020. Il faut rappeler le contexte, Theresa May n'ayant pas été élue mais portée au pouvoir par les députés après la démission de David Cameron l'été dernier, elle espère disposer d'une assise plus large au Parlement pour mener au mieux les négociations avec Bruxelles, alors qu'elle n'avait jusqu'à présent qu'une courte majorité. Et lors d'un sommet il y a quelques jours, le 29 mars à Bruxelles, sans le Royaume-Uni, les 27 ont affiché une position ferme et commune. Donc les choses s'accélèrent, mais elles se gâtent aussi. Les désaccords sont si nombreux que certains craignent qu'un accord ne puisse être trouvé avant la date butoir en 2019. Les Européens estiment de leur côté que les conditions du divorce lui-même doivent être fixées avant d'entamer les discussions sur les futures relations, notamment sur le plan commercial, alors que les Britanniques veulent traiter les deux sujets de front. Si les chiffres de la croissance britannique pour l'instant ne semblent pas pâtir de cet entre-deux, il y a une inquiétude forte parmi les ressortissants étrangers travaillant au Royaume-Uni. Un nombre croissant d'employeurs au Royaume-Uni ont actuellement du mal à embaucher, selon une enquête menée auprès de 1000 entreprises britanniques par un institut britannique. Depuis le quatrième trimestre 2016, l'arrivée en Grande-Bretagne de travailleurs provenant de l'Union européenne a ralenti de moitié et cela pourrait avoir un impact marqué dans les secteurs qui recoupent notamment à une main-d'œuvre peu diplômée comme la vente, la restauration et l'hôtellerie. Ensuite, face aux incertitudes sur les thèmes de l'accord à venir, il y a aussi des ressortissants européens qui travaillent au Royaume-Uni qui envisagent un retour on the continent, sur le continent, dès que la sortie du Royaume-Uni sera effective, notamment dans les secteurs de l'éducation et de la santé. Sinon, je vous enjoins à lire dans le dernier numéro d'Alternative Économique un zoom consacré à la ville de Blackpool située au nord-ouest du Royaume-Uni intitulé « Le Brexit devient réalité » dans cette ville qui était une destination phare de la working class, la classe ouvrière, ouais. Et qui aujourd'hui est en situation très difficile.
2019, on le rappelle, l'échéance, c'est à suivre jusque-là. Votre chiffre, David Bavret ?
Moi, c'est 2%. 2%, c'est la part des revenus des ménages américains consacrés à l'éducation privée. En Chine, c'est 15%. Donc la Chine investit 7 fois plus en relatif que les États-Unis dans l'éducation des enfants. C'est pour ça qu'en 2020, vous aurez 200 millions de diplômés chinois. C'est l'équivalent de la population active américaine.
Merci David Bavret. Françoise Lemoine, très rapidement.
Moi, c'est 6,7%. C'est le taux de croissance de l'économie iranienne, d'après Alternative Économique.
C'est bonne lecture.
D'autant plus remarquable que la croissance iranienne était... l'année précédente, en 2015, de 0%. Et ça s'accompagne d'un petit développement d'investisseurs étrangers maintenant. Enfin, je trouve que c'était une bonne nouvelle dans une région où il n'y en a pas beaucoup.
Merci de la signaler. Enfin, Jacques Gravereau, vous avez quelques secondes aussi.
Moi, je reste à la Chine. Mon chiffre, c'est 2030. C'est une année. 2030, c'est la grande bascule de la Chine. La Chine aura 1,4 milliard d'habitants à ce moment-là et ça commencera à baisser inéluctablement. Elle sera dépassée la même année par la population de l'Inde. C'est la même année que le PIB chinois nominal dépassera celui des États-Unis. Aujourd'hui, c'est en parité de pouvoir d'achat. Et puis, c'est là aussi que l'armée chinoise sera véritablement puissante après avoir fait sa montée en puissance qui a commencé aujourd'hui.
Enjeu géopolitique, bien entendu, là aussi. La Chine conquérante, justement, enquête sur une étrange superpuissance. Et votre livre, Jacques Gravereau chez Erol, Paris-Pékin Express, de David Bavret, La nouvelle Chine racontée au futur président au cours d'un voyage en avion assez rocambolesque et bien arrosé, aux éditions François Bourin. Je signale d'Isabelle Attané, je l'ai mentionné, La Chine à bout de souffle chez Fayard, je crois. Très intéressant également. Et puis, bien sûr, venez nous retrouver sur Twitter, sur notre site, où Laurence Genepin a préparé et documenté cette émission. Et merci enfin à Laetitia Coya qui réalise, comme chaque semaine, notre émission en compagnie aujourd'hui d'Élise Le. Merci à tous, à samedi prochain et à suivre à 12h30 le journal.